culture. Sur l'expression la plus profonde, la plus originelle, la plus vraie de la joie de l'amour. Et finalement, quelle est cette joie qui demeure indéfectiblement par-delà toutes les souffrances, toutes les blessures, toutes les déceptions que connaît inévitablement l'amour humain. Pour illuminer toutes ces questions, je vous livre cette réflexion, ou plus exactement cette méditation que Jean-Paul II faisait dans sa dernière œuvre de poésie, Le Triptyque romain, qu'il a publié en 2003, 2 ans avant sa mort. Et quand ils deviennent un seul corps, ô admirable union, à l'horizon de cette union pointent la paternité et la maternité. C'est alors qu'ils remontent aux sources de la vie qu'ils portent en eux. Alors d'où vient la joie d'aimer? Comment se fait-il qu'une vie dans laquelle il n'y a plus d'amour est inévitablement une vie triste, éterne? La réponse, elle est à chercher aux origines mêmes de l'humanité, dans ce que Jean-Paul II appelle la préhistoire théologique de l'homme, et dont témoigne le texte révélé de la Genèse. Ce texte de la Genèse montre ce que sont les expériences originelles de l'homme. Et ces expériences originelles qui sont à l'origine de l'humanité nous concernent également chacune et chacun d'entre nous dans la mesure où elles font référence à notre humanité même et que cette dimension est atemporelle. C'est ce que disait Jean-Paul II dans l'une de ses audiences de la théologie du corps. « Quand nous parlons des expériences humaines originelles, dit-il, nous pensons moins à leur éloignement dans le temps qu'à leur signification fondamentale. Ce qui est donc important, ce n'est pas que ces expériences appartiennent à la préhistoire de l'homme, à sa préhistoire théologique, mais qu'elles se trouvent à la racine de toute expérience humaine. » Et il faut, parmi ces expériences, évoquer ici celle de la solitude originelle. Le second récit de la création, celui que l'on nomme le récit yaviste, rapporte que Yahvé Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Mais avant d'achever complètement la création de l'homme et la femme en la constituant dans sa masculinité et sa féminité, Yahvé Dieu fait faire à l'homme l'expérience de sa solitude dans le monde des êtres vivants, celle de sa capacité de nommer les animaux. Yahvé Dieu forma du sol tout animal des champs et tout oiseau des cieux et les conduisit à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait, dit la Genèse. Et c'est une sorte d'examen ou de test, dit Jean-Paul II, que passe l'homme à la fois devant lui-même et devant Dieu et par laquelle expérience il prend conscience de ce qu'il est radicalement différent de tous les animaux de la terre et du ciel. Grâce à un tel test, dit Jean-Paul II, l'homme prend conscience de sa propre supériorité, c'est-à-dire qu'il n'est sur la terre aucune espèce d'être vivant qui puisse être considéré comme son égal. Et c'est là le versant positif de cette expérience. Si l'homme est capable de nommer les animaux, c'est qu'il en a une connaissance parfaite. Il a la connaissance de l'intime de l'être de chacun de ces animaux, qui est exprimé par le fait qu'il nomme, car seul celui qui connaît est capable de nommer, c'est-à-dire de donner le nom qui correspond exactement à l'être que ce nom désigne. Et donc, connaissant parfaitement la nature, l'homme découvre qu'il a la capacité de la gouverner, car il est au-dessus de la nature. Mais il y a également un versant négatif, au moins dans un premier temps, de cette expérience. C'est-à-dire que l'homme, connaissant parfaitement la nature, découvre qu'il est le seul à bénéficier du privilège de l'humanité. Pour un homme, dit le texte de la Genèse, il ne trouva pas d'aide qui lui fût.